L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous, l'atelier numérique sur BFM Business. Notre dossier de l'atelier tout à l'heure, on va parler du séquençage d'ADN. Vraiment, là on est dans les biotechnologies. Hein. Ce sera dans quelques instants. Et puis notre World Tour aussi, nous irons direction Varsovie. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet. Et on va s'intéresser aux droits des robots. Alors Lila, ça peut paraître un sujet farfelu.
Prospectif.
Voilà, parce que pour l'instant, les robots ne font pas grand-chose. Mais demain, lorsqu'ils régiront le monde, il va bien falloir qu'ils aient des droits.
Alors, je ne suis pas sûre qu'ils régissent le monde.
Pas tout de
suite. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais en tout cas, sachez que le sujet n'est pas si prospectif que ça, puisque les robots pourraient devenir des personnes électroniques à part entière, responsables en cas d'accident et pour lesquelles il faudrait payer des cotisations sociales, d'après un document de travail du Parlement européen. Mais avant même de songer à tout ça, de quoi parle-t-on quand on évoque le droit des robots? Qu'entend-on? Quel cadre juridique donner? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de robots? Aussi, on va parler de tout ça avec un expert, Jérémy Bensoussan. Bonjour.
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 Alors, Jérémy Bensoussan, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes également ingénieur diplômé de l'École spéciale des travaux publics et vous dirigez le département technologie robotique au sein du cabinet Alain Bensoussan.
Exactement.
Alors, vous avez coécrit avec Alain Bensoussan l'ouvrage Droit des robots, paru aux éditions Larcier. Alors, à quoi répondait l'écriture de cet ouvrage? Le droit des robots, il en faut un aujourd'hui, aujourd'hui.
En fait, le droit des robots, c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité parce qu'on a un certain nombre de systèmes juridiques qui existent et qui sont déjà actifs. On peut penser notamment aux législations applicables aux drones aériens civils. Et de ce point de vue-là, même si c'est embryonnaire, c'est déjà une réalité. À côté de ça, si on prend l'exemple des voitures autonomes, il est prévu une législation spéciale pour pouvoir gérer les cas d'accidents qui pourraient avoir lieu, alors même que la technologie autonome est activée, puisque si elle est activée, c'est plus difficile d'identifier le débiteur de l'indemnisation, la personne qui doit payer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de conducteur. Or, la loi vise le conducteur, qui est d'abord le propriétaire, mais le conducteur, sinon.
Donc là, on le voit bien, il y a des bribes par-ci, par-là. Alors, derrière, est-ce que quelque part, il n'y a pas une histoire de définition du robot, à savoir que cette définition, est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types, quelque part, de robots?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, on se rend compte que le terme robot est, sur un point de vue technique, technologique, ça recouvre une réalité qui est protéiforme. Et que c'est parce que le terme ne vient pas de la technique au départ que c'est aussi diversifié. Et donc, il y a tellement d'aspects derrière qu'il faut pouvoir un peu préciser les choses. Et en précisant les choses, on peut trouver des droits qui viennent s'appliquer. Si on parle de robots, on peut distinguer à grands traits la robotique industrielle, celle des lignes de production. On peut distinguer également la robotique professionnelle, qui se développe, notamment à travers la cobotique, c'est-à-dire la robotique collaborative, qui vise à remettre l'humain au centre de l'action. Et puis, la robotique de service à la personne, et dont les principaux ambassadeurs pourraient être les robots humanoïdes, qui un jour, dans un futur d'ailleurs relativement proche, pourraient intégrer les foyers.
Et alors, est-ce qu'à partir de cette distinction, on pourrait imaginer demain des codes propres à chaque type de robot?
Ce qu'on pourrait imaginer, c'est effectivement un corpus normatif, on pourrait dire un certain nombre de règles qui viendraient s'appliquer spécialement au regard d'une technologie robotique donnée. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est déjà le cas pour les drones aériens civils et bientôt pour les voitures autonomes, à délégation partielle ou totale de conduite, comme l'ordonnance en la matière le prévoit. Sinon, à côté de ça, les robots parce que ce sont des objets techniques et parce qu'ils sont concrets, peuvent recouvrir un certain nombre de qualifications juridiques qui existent par ailleurs. Et à chaque fois que le robot peut correspondre à une notion de droit, on va venir activer un régime particulier. Et l'exemple qu'on peut donner, par exemple, en matière de responsabilité, c'est la responsabilité du fait des choses. Le robot peut être une chose au sens de ce texte-là. Ça peut être également un produit au sens de la responsabilité du fait des produits. Et on peut multiplier les exemples comme ça et à chaque fois activer un régime propre. Et le dernier élément, c'est, mais là on se situe plus sur une attitude prospective, c'est est-ce que à l'avenir, on pourrait identifier une norme, une règle, quelque chose de transversal qui serait propre à l'ensemble des robots, on pourrait dire, intelligents, ceux qui auraient effectivement une autonomie assez importante, qui pourraient être mobiles dans l'espace, qui pourraient également être dotés d'une capacité d'apprentissage et véritablement avoir un impact propre sur le réel. Et cette catégorie de robots-là, qu'on pourrait nommer intelligents, pourrait, alors là, dans l'ensemble, avoir un
statut juridique particulier, c'est ça ?
On pourrait aller jusqu'à envisager un statut juridique particulier qui viendrait, si je puis dire, les sortir de la catégorie des biens dans laquelle ils sont pour l'instant, où ils se situent pour l'instant.
D'accord, ça les rendrait peut-être plus responsables de certaines actions. On parle beaucoup, par exemple, de silver economy. On peut demain imaginer que des personnes retraitées aient un robot qui les accompagne jusqu'au bout, en quelque sorte. Et si demain, ce robot n'avertit pas les secours parce qu'il y a un problème ou, enfin, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse donner une certaine responsabilité à ce robot qui serait devenu intelligent et qui aurait failli dans sa mission ?
Alors, on pourrait l'imaginer.
Alors là, mais c'est de la science-fiction, mais ça peut sans doute arriver. Hein.
Mais si vous vous situez sur un système de responsabilité, c'est que, d'une certaine manière, vous avez une attitude de sanction. Et si vous avez une attitude de sanction vis-à-vis du robot, c'est pour pouvoir permettre une indemnisation derrière. Et si vous voulez sanctionner le robot pour pouvoir indemniser, encore faut-il qu'il ait une forme de capital, qu'on puisse venir puiser à l'intérieur de ce capital, une somme qui viendrait réparer. Et c'est envisageable, mais pour pouvoir faire ça, si vous voulez créer un capital, il faut le doter d'une existence juridique propre qu'on pourrait, de ce point de vue-là, rendre proche de celle des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, c'est-à-dire celle des associations. Le principe même d'une société, c'est de pouvoir avoir un capital et des dettes sociales. Et lorsque ces dettes doivent être payées, c'est la société elle-même qui paye. Mais vous pouvez aussi, dans une perspective qui serait peut-être plus positive, vis-à-vis du robot, si vous voulez lui conférer des droits, vous pourrez imaginer un certain droit à la dignité. La dignité. D'abord, en ce que le robot peut être le vecteur, le miroir de l'homme, parce qu'il va recueillir un certain nombre d'informations sur l'humain, et de ce point de vue-là, il faut le protéger. Le robot serait là simplement une nouvelle étape dans le respect, notamment de la vie privée. Vous aviez votre domicile, et puis plus tard, vous avez eu votre domicile virtuel sur votre ordinateur. Vous pouvez imaginer que toutes ces données et tout ce qui ressort de votre vie privée, cette fois-ci, ne soit plus ni chez vous, ni dans votre ordinateur, mais à l'intérieur du robot. Et là, il faudrait effectivement le protéger. L'étape supplémentaire, et là, on rentre véritablement dans la prospective, ça ne serait pas de protéger le robot en ce qu'il est le reflet de la vie privée de l'homme, mais pour lui-même, un espèce de droit à la non-dégradation.
De personnalité robot ?
Le droit à la non-dégradation du robot lui-même parce que on a, d'un point de vue juridique, consacré son existence.
Alors, avant même d'arriver à ça, on le voit bien, on est aux prémices. Hein. Quelles premières étapes vous verriez avant d'arriver à ces questions de personnalité juridique?
Effectivement, c'est un concept d'anticipation et pour préciser, ça n'a pas vocation à faire du robot l'égal de l'homme. Ça a simplement l'idée derrière, c'est de montrer que le robot n'est ni assimilable entièrement aux choses, c'est pas un grippin, mais c'est pas non plus un animal, par exemple. Il est pas doué, c'est pas un être vivant doué de sensibilité. Pour autant, il est quand même, d'une certaine manière, à certains égards, plus intelligent qu'un simple animal, car on imagine mal un animal battre un champion de Go, par exemple, rebondir sur une actualité d'il y a quelques mois. Et là, on est sur effectivement l'intelligence artificielle, mais qui pourra être l'esprit, si je puis dire, l'esprit du robot. Si on veut situer sur une étape intermédiaire, et si on s'intéresse à ce qui se passe pour les animaux, on se rend compte en fait que l'attitude du droit a évolué. Ils étaient qualifiés, ils étaient considérés comme des biens meubles, des choses en réalité, et on a dit maintenant ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais on leur applique quand même le régime des biens meubles. Pour autant, ça a l'air de rien, mais d'un point de vue du droit, ça a tout changé. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer parce que c'est pas la même chose de dire d'un côté vous êtes un bien, mm-hmm, et activer un régime associé, et dire vous êtes un être vivant doué de sensibilité, mais par ailleurs je vais venir vous appliquer les règles du droit des biens. Pourquoi ? Parce que vous avez précisé intrinsèquement la nature profonde de l'animal. Et ça peut avoir un impact. Et si on procède de la même logique, pour les robots, ça peut être la même chose. Ils peuvent être des biens, mais à mesure qu'ils gagneront en autonomie, on peut imaginer d'autres règles qui viendraient s'appliquer, moduler le régime des biens. Et ça peut être des règles liées aux droits des humains et emprunt de référentiels éthiques et culturels.
Passionnant, hein, tout ça. Hein.
Passionnant, merci beaucoup pour cet éclairage. Pour les auditeurs qui souhaiteraient approfondir, je les invite à lire votre ouvrage « Droit des robots » paru aux éditions Larcier. Merci beaucoup, Jérémy Bensoussan.
Et vous restez avec nous la suite de cet atelier numérique dans un instant sur BFM Business avec, comme promis, notre World Tour, direction Varsovie. Et puis on va parler de biomédecine dans quelques instants avec notre dossier d'atelier de biotechnologie plus précisément. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, dans cet atelier, notre dossier de l'atelier, on va parler de biotech. Mais auparavant, notre World Tour avec vous, Aurore Géraud. Petit détour du côté de Varsovie cette semaine.
Oui, et nous sommes en compagnie de Thibaut Rouquette, qui est responsable écosystème à DIRAF. Bonjour Thibaut.
Bonjour l'atelier.
Bonjour.
Alors, DIRAFT, c'est une entreprise spécialisée dans la connexion entre start-up et grands groupes. Donc, on va parler de l'écosystème start-up à Varsovie et en Pologne, de manière plus générale. L'écosystème start-up, il est un peu émergent en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, alors, en effet, l'écosystème de Varsovie et de la Pologne en général, c'est un écosystème qui est en pleine ébullition. Et je pense que pour comprendre d'où vient cette ébullition, il faut regarder très brièvement d'un point de vue historique et économique. Mmh. Donc la Pologne, ça a été, après la Seconde Guerre mondiale, complètement ravagée, puis sous l'influence soviétique, jusqu'en 1989, où on a la chute du mur de Berlin et le retrait de l'influence soviétique, et là, l'ouverture des marchés et l'internationalisation, quelque part, de la Pologne pour les affaires, le business. Il s'ensuit plus de deux décennies de croissance à plus de 3% annuel, ce qui est bien au-delà de toutes les économies en Europe de l'Ouest. Sachant que c'est un pays avec 40 millions d'habitants, on a vraiment de quoi créer de la valeur et des entreprises dans le pays en lui-même, et on arrive aujourd'hui à 2016.
Et quelles sont alors du coup les spécificités de l'écosystème start-up ?
Alors, les spécificités de cet écosystème, tout d'abord, c'est un écosystème qui est jeune et dynamique. Jeune dans le sens où ça fait 18 mois que je le regarde, ça fait 12 mois, plus d'un an maintenant que je suis sur Varsovie, et tout va très vite. On a des nouvelles créations d'entreprises qui ont des croissances assez impressionnantes. Et ce qui fait sa spécificité, c'est sa mixité. Lorsqu'on se retrouve à des événements start-up ou à des événements de networking qui vont aider les start-up à se développer, on voit vraiment tout, on va dire, des différents types de personnes qui sont représentées. Il y a des académies, il y a des VC, il y a les grands comptes qui sont là jusqu'à des très hauts niveaux de management, et les gouvernements sont présents. Donc tous ensemble sont vraiment dans cette dynamique à vouloir booster l'économie start-up en Pologne et aussi en Europe centrale. Que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un moteur pour toute l'Europe centrale et de l'Est, avec notamment, si on regarde à tels que des classements que le Deloitte Technology Fast 50, En Europe centrale, la Pologne est le premier pays avec 12 entreprises qui sont représentées parmi les 50 et qui montrent la voie à la croissance numérique.
Vous parliez de représentants de l'État. Quelles sont les initiatives qu'on voit et quelle est la place de l'État dans cet écosystème?
Alors, au niveau de l'État, le gouvernement est déjà premièrement très ouvert et très accessible. Nous, on les a souvent vus à nos événements. Avec Diraft, on a fait le lancement d'un espace qui s'appelle The Hut et qui sera un regroupement de tout cet écosystème dont on parlait niveau corporate et B2B. Mm-hmm. Et ils ont aussi notamment plusieurs programmes. Il faut savoir que l'État bénéficie des capitaux qui sont envoyés par l'Europe. Donc c'est sur le programme 2014-2020, plus de 82 milliards d'euros investis, dont 10,8 pour le Smart Growth et le Digital Poland, donc pour toutes les questions de R&D innovation et la numérisation du pays. Mm-hmm. Et là, ils ont annoncé au mois de juin 2016 l'ouverture d'une plateforme dans laquelle ils veulent pousser l'investissement dans les startups et l'investissement aussi privé avec 680 millions d'euros qui seront investis dans les prochaines années et qui est une initiative d'État.
Et du coup, quels sont les domaines qui se démarquent? On parlait de spécificité. Est-ce qu'il y a, il y a des secteurs? Est-ce qu'il y a des techs? Est-ce que vous avez des exemples de start-up, des success stories?
Alors, exemple de start-up et success stories, oui. Au niveau des domaines, c'est assez intéressant dans le sens où on voit ce qui est assez général et des success stories qui viennent de différentes industries, en fait. Donc, ils sont, du fait de leur de l'éducation qu'ils ont, les universités très fortes en tech, on a beaucoup de choses qui se voient au niveau du big data, au niveau du machine learning, on a vraiment de plus en plus d'entreprises qui essayent de se focaliser dans ces domaines très techniques et technologiques. Mm-hmm. Ils ont aussi, ils sont assez réputés pour tout ce qui est niveau hardware et beacon.
Oui.
Et d'ailleurs, quand on parle beacon, parmi les success stories polonaises, on peut... on peut citer Contact.io ou Estimote. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec ces deux entreprises, c'est qu'en parlant des success stories, il y a aussi deux modèles. Sur Contact.io et Estimote, ce sont des entreprises qui sont, on va dire, à 50% polonaises et à 50% d'ailleurs. Dans le cas, souvent, c'est les US ou jusqu'à maintenant, c'était Londres. Mm-hmm. Et du coup, on a souvent tout ce centre R&D tech en Pologne et tous ces talents tech et après le siège qui est souvent bougé dans un pays en externe. Pour celles qui sont purement polonaises, là on peut citer LiveChat qui est rentré, qui a fait son IPO en avril 2014, qui est aujourd'hui valorisé à plus d'un milliard de zloty, ou DocPlanner qui est en pleine explosion, qui est au niveau santé. Donc LiveChat, c'est software de chat en direct pour les grandes entreprises. DocPlanner, c'est la gestion des rendez-vous médecins qui vient de prendre 20 millions de dollars d'investissement étrangers pour leur croissance.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Thibaut Houquette.
Avec plaisir.
Voilà, merci, petit retour du côté de Varsovie, après Varsovie. Place maintenant à notre dossier de l'atelier, direction San Francisco avec vous, Polly Kontner. On va parler de biotech cette semaine.
Oui, François, aujourd'hui, on va parler de la santé de demain, en particulier d'alternatives aux antibiotiques. Alors, j'ai la chance d'être aux côtés de Bruno Marchon, qui est CTO, Chief Technical Officer, en français, directeur technique, chez Epibiome. Alors, Epibiome, c'est une start-up qui est basée dans le sud de San Francisco. Ce beau projet vient de lever 1 million de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 5 premiers déjà levés et propose justement une alternative aux antibiotiques traditionnels. Alors, Bruno, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez rejoint ce projet?
Oui, je m'appelle Bruno Marchon. Ça fait à peu près un an que je travaille à Epibiome. Avant, j'ai travaillé en fait 25 ans dans les disques durs, l'industrie des disques durs dans la Silicon Valley. Donc assez différent. Il se trouvait en fait que j'avais des associés dans ma compagnie d'avant qui ont commencé cette boîte et qui m'ont proposé de les rejoindre en tant que directeur technique. Donc ça fait un an que je suis ici et voilà.
Concrètement, en quoi consiste votre rôle de directeur technique auprès d'Epibiome?
Alors donc, je suis responsable de tout ce qui est R&D, c'est-à-dire recherche et développement. Donc, c'est nous qui développons, en fait, les nouvelles technologies que l'on essaie de commercialiser, donc, dans ce domaine des bactériophages.
Alors, avant de nous expliquer votre technologie, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est de l'utilisation des antibiotiques dans le monde aujourd'hui?
Alors, les antibiotiques, donc, ils ont été découverts à peu près juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça marchait très bien, c'est pas très cher, c'est facile à produire. Mais c'est un problème, c'est que les bactéries, en fait, petit à petit, elles se sont habituées à ces antibiotiques et elles ont développé, en fait, des résistances à ces antibiotiques. Donc maintenant, de plus en plus, on trouve des bactéries dans les hôpitaux qui sont résistantes aux antibiotiques et c'est un gros problème. Il y a des gens qui disent maintenant que peut-être dans quelques années, disons dans 20-30 ans, il y aura plus de gens qui mourront, en fait, de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques plutôt que le cancer.
Et est-ce que l'utilisation des antibiotiques sur les populations animales a aussi un impact?
Alors les antibiotiques au niveau animal ont le même impact, c'est-à-dire on trouve les mêmes pathogènes, en fait, les mêmes bactéries dans les animaux. Nous on travaille surtout sur les vaches et l'industrie laitière. Et il y a effectivement des bactéries qui produisent les mammites de la vache, en fait, qui sont aussi de plus en plus résistantes aux antibiotiques.
Alors que fait Epibiome dans tout ce sombre décor?
Alors dans ce sombre décor, Epibiome essaie de trouver des alternatives, on appellera ça naturelles, biologiques, aux antibiotiques. En fait, on utilise une technologie qui n'est pas très récente. On redécouvre en fait une technologie, une biotechnologie qui a été développée dans les années 1910-1920 par un Français d'ailleurs, qui s'appelait Félix Derel. Et c'est lui qui a découvert qu'il y avait en fait, à chaque fois qu'il y a des bactéries quelque part, il y a toujours un virus qui est associé à cette bactérie et qui attaque la bactérie et qui la tue. Et donc ces virus, il les a appelés les bactériophages. Donc phage, c'est manger en grec. Donc c'est les virus qui mangent les bactéries. Et en fait, cette technologie a un peu disparu quand les antibiotiques sont apparus sur le marché, parce que c'était moins cher, beaucoup plus facile à produire en très grosse quantité. Mais maintenant, on pense que c'est le moment en fait, de retrouver un peu cette technologie, de se repencher là-dessus, avec des outils modernes maintenant, comme le séquençage de l'ADN de nouvelle génération. Et puis aussi, on travaille maintenant beaucoup avec des robots, des automates, en fait, qui permettent de faire des manipulations sur ces bactéries et ces virus plus rapides. Bon, maintenant, avec des robots, on pense faire ça et multiplier en fait la découverte de ces bactériophages 100 fois ou 1000 fois plus rapide qu'avant.
Et puis, on propose une plateforme qui est à destination de qui exactement?
Alors donc, cette plateforme, on la met au point en fait de façon totalement agnostique, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien. Il n'y a rien qui empêche d'appliquer cette plateforme pour les animaux, pour les hommes ou même pour les plantes en fait. Donc tout ce qui est maladie infectieuse, en fait notre plateforme pourra l'aider.
Vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre projet?
Alors donc on a démontré la plateforme qu'on a marche très bien. On a découvert nos propres bactériophages. En fait ils sont partout les bactériophages. Donc le gros problème c'est de les trouver, de les isoler, de les caractériser, etc. De les amplifier, de les fabriquer en fait en très très grande quantité. Et en fait on a démontré l'activité de ces bactériophages contre la bactérie Escherichia coli sur la mammite de la souris. Donc on a fait des essais sur la souris, des souris enceintes. On a injecté la bactérie dans la mamelle de la souris, on a injecté nos phages, on a prouvé que ça marchait. Et donc l'étape suivante, ce sera de démontrer cela sur des vaches elles-mêmes. Et en fait, la semaine prochaine, on commencera nos essais sur les vaches.
Alors, dans quelques années, est-ce que je pourrais avoir à disposition en pharmacie des produits Epibiome?
Alors les produits Epibiome, bien sûr, dans quelques années, ils seront disponibles. En fait, la technologie de bactériophage existe déjà aujourd'hui dans les produits, disons, de grande consommation. Il y a une société américaine qui, en fait, produit des cocktails de phages pour l'industrie alimentaire. Donc, des produits qui peuvent garder les aliments pendant plus longtemps parce qu'en fait, ils détruisent les pathogènes et les microbes dans ces produits de grande consommation dans les supermarchés.
J'ai entendu que vous aviez levé une coquette somme d'argent récemment. Ça va servir à quoi?
Alors, cette somme d'argent, ça sert à payer le salaire de nos ingénieurs. Ça nous sert à acheter tout le matériel dont on a besoin, les robots, les instruments. On fait nous-mêmes notre séquençage ADN, donc il faut payer non seulement l'instrument, mais en fait tous les produits qu'on a besoin pour faire ça. Puis ensuite, on va aussi déménager dans des locaux nouveaux, et donc ça va coûter assez cher, ça aussi.
Merci Bruno Marchon. Je rappelle que vous êtes le directeur technique d'Epibiome, une start-up basée à San Francisco qui propose une alternative aux antibiotiques traditionnels. Merci beaucoup.
Merci Pauline, c'est un grand plaisir.
Merci Pauline, on revient dans un instant, suite et fin de cet atelier avec la rédaction de 01net.com. Dans un instant, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec tout à l'heure le crash test d'Antoine et puis Guillaume de Groisse de l'atelier. Mais dans l'immédiat, la rédaction de 01net.com est ici avec Eric Le Bourlou. Bonjour Eric.
Bonjour.
Rédacteur en chef donc de 01net.com. On va commencer par cette histoire dramatique.
Et oui.
Ça y est, on a le premier accident mortel. Un conducteur qui est mort à bord d'une voiture qui était en autopilote, c'est-à-dire qui était en mode véhicule autonome en quelque sorte. Et c'est Tesla qui s'y colle pour la première.
Exactement, c'est Tesla qui l'a en fait tout simplement écrit sur son blog, parce qu'il y a une enquête, des autorités américaines sur cet accident. C'est la première fois en effet qu'un conducteur en mode de pilotage automatique de sa Tesla subit un accident mortel. Alors c'est triste et en même temps ça pose énormément de questions sur ces nouvelles fonctions qui arrivent, hein. Donc il y a Tesla, mais il y a bien d'autres constructeurs qui travaillent à ce genre.
Il y a la Google Car notamment, enfin puis
évidemment,
puisque aujourd'hui les véhicules haut de gamme sont de plus en plus autonomes sur certains circuits en fait, sur certaines routes.
Exactement. Donc on va juste passer vite sur les circonstances de l'accident, mais effectivement il y a un camion qui a coupé la route en fait à ce conducteur de Tesla, et la Tesla, alors que lui il est en mode autopilote, donc peut-être était occupé à faire autre chose, n'a pas forcément vu ce qui arrivait tout à coup. Et bien la voiture n'a pas freiné, donc voilà, il est rentré dans le camion. Alors Tesla explique que c'était des circonstances très particulières qui ont fait que ça a pu arriver, que c'est vraiment un faisceau de facteurs qui ont fait que on en est arrivé là. Mais toujours est-il que
une personne est décédée.
Voilà. Une fan de Tesla d'ailleurs qui avait fait beaucoup de vidéos sur internet évoquant l'autopilote, et qui avait fait déjà beaucoup de voyages à travers les États-Unis avec l'autopilote
donc
activé.
Donc on peut imaginer que cette personne avait confiance en ce système-là, puisqu'elle l'utilisait au quotidien depuis de nombreux mois. Donc forcément la vigilance baisse, et forcément quand il y a un obstacle, on fait confiance à la machine, et là la machine n'a pas suivi.
Exactement. Voilà. Alors effectivement, alors Tesla donc rappelle plusieurs choses aussi à ce titre, parce qu'on sait que l'autopilote, même les possesseurs de Tesla en France peuvent l'utiliser.
Mais il est désactivé par défaut.
Et Tesla rappelle à toute fin utile qu'il s'agit d'une bêta. C'est une bêta, ce n'est pas une fonction qui est assumée complètement par Tesla. Une bêta, ça veut dire quoi dans les logiciels? Ça veut dire qu'il peut rester des bugs, que ce n'est pas parfait. Alors elle n'est pas activée par défaut, et Tesla dans sa voiture, quand le conducteur de la voiture active cette fonction, voilà, il y a beaucoup de warnings qui sont présentés sur le tableau de bord du véhicule. Tesla rappelle aussi que c'est pas parce que la voiture est en autopilote qu'il faut faire autre chose.
Faut pas jouer au Scrabble, par exemple,
et effectivement, ils indiquent que il faut garder les mains sur le volant. Mais quand on regarde les vidéos sur internet des gens qui utilisent au quotidien cette fonction, on voit bien que justement, si vous avez un autopilote, c'est pour pouvoir
faire autre chose
dans la voiture, enlever les mains de votre volant.
D'autant qu'on s'habitue à ce luxe en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même une fonctionnalité qui est agréable.
Exactement. Donc voilà, on peut. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, et ça pose beaucoup de questions sur ces modes semi-autonomes là. Donc il faut rester absolument vigilant si vous utilisez ce genre de pilotage sur une Tesla ou sur d'autres voitures. Il n'y a pas de Tesla qui a l'autopilote aujourd'hui. Ce n'est pas encore parfait, et il faut faire attention.
Oui, d'autant que là, c'est quand même étonnant que Tesla déploie des mises à jour et des fonctionnalités qui sont en bêta. Et là, c'est vrai que c'est pas un jeu qui est en bêta. C'est carrément une fonctionnalité de sécurité qui est hyper importante. On le voit, puisqu'il y a eu un décès.
Tout
donc
à
c'est,
fait. Ouais,
c'est quand même étonnant de propager comme ça une fonctionnalité en bêta, alors que
elle peut vous coûter éventuellement la vie si vous n'êtes pas vigilant.
Voilà.
Ouais. Voilà.
Bon, on enchaîne avec Facebook maintenant. Peut-être que vous êtes un gros utilisateur de Facebook, comme des millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Eh bien, votre flux d'actualité va changer, va évoluer en tout cas.
Oui, alors Facebook fait souvent des petits changements dans le flux d'actualité. On s'en rend pas forcément compte tout le temps. Mais peut-être que vous vous êtes rendu compte récemment que vous voyez plus beaucoup les publications de vos amis. Alors vous voyez, si vous êtes abonné à beaucoup de pages, peut-être pourquoi pas celle de 01net ou de 01net TV par exemple. Vous voyez parfois beaucoup de pages qui remontent, beaucoup de médias sur lesquels vous êtes abonné, et d'ailleurs les médias s'en servent beaucoup pour faire de l'audience supplémentaire. Mais il y a des postes de vos amis que vous pouvez rater. Alors c'est des amis parfois que vous côtoyez pas tous les jours. Eh bien, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont râlé et Facebook a décidé de changer encore une nouvelle fois son algorithme pour que vous ne ratiez plus finalement ces postes de vos amis, parce que à la base, on peut rappeler quand même que Facebook, normalement, en théorie, c'est pour garder le contact avec ses proches et non suivre l'actualité ou avoir des promotions sur je ne sais quel objet. Et donc Facebook a choisi de changer cet algorithme pour que vous ne ratiez plus la moindre publication de vos amis qui seront maintenant toujours
en prioritaire. En fait. D'accord. Voilà. Donc malgré tout, de temps en temps, on peut imaginer qu'il y aura des pages de médias qui apparaîtront,
tout à fait.
Mais moins souvent.
Mais en gros, alors le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent apparaître sur votre fil, que Facebook est obligé de faire un tri entre les publications de vos amis, les publications qui sont susceptibles de vous intéresser, des médias ou des pages auxquelles vous êtes abonné. Le seul problème, c'est qu'il y a tellement de publications que forcément, on ne peut pas tout vous montrer. Donc voilà, il faudra donc maintenant faire attention à ça, parce que vous pourrez, si vous êtes habitué à utiliser Facebook pour suivre l'actualité par exemple, eh bien vous pourrez parfois rater aussi d'un autre côté maintenant certaines annonces, certaines actualités que Facebook pourra vous présenter.
On quitte maintenant l'univers de Facebook pour s'intéresser à celui d'Apple. Apple qui est en ce moment en bisbille avec un autre service que vous utilisez peut-être. Il s'agit de Spotify.
Eh oui, parce que Spotify s'est vu refuser tout simplement, parce que c'est Apple qui décide, on le rappelle. C'est vu Spotify.
C'est pas mal.
J'ai rien inventé inverse.
Ah ouais, moi j'aime bien.
C'est vu refuser une nouvelle mise à jour de Spotify qui voulait publier sur l'App Store. Apple a fait non, on ne veut pas de cette mise à jour, on ne veut pas que vous la mettiez sur notre store.
Oui, parce que rappelons que Apple systématiquement vérifie les mises à jour des développeurs d'applications.
Il a le droit de refuser.
Que ce soit un jeu, un service ou même une appli de musique comme celle de Spotify.
Tout à fait, il a le droit de refuser si elle a envie de cette application. Le problème, c'est que pourquoi elle a été refusée cette mise à jour ? C'est parce que, en fait, Spotify voulait en fait faire une petite promotion sur son application de musique profiter en fait un petit peu, on va dire, hacker le système d'Apple, hein, on va dire, en simplement offrant une promotion à 99 centimes d'euros pour les utilisateurs d'iPhone, pour qu'ensuite ils viennent s'inscrire sans passer par Apple à leur service de musique.
Voilà, donc l'application avait été mise en place pour que au bout de ces 3 mois, on
puisse s'abonner sans passer par l'App Store. Or, Apple.
Alors pourquoi l'App Store ?
Alors parce que effectivement, quand vous proposez une application sur l'App Store, vous êtes obligé, en tant que développeur, de passer par les systèmes de facturation d'Apple. Or, ce système de facturation d'Apple prévoit que 30%. Alors ça va baisser bientôt. Hein, ils l'ont annoncé. Il y aura. Ça va être plus que 15%. Bon, bref. Mais qu'une partie de ce revenu aille directement dans la poche d'Apple. Ce qui est un peu problématique pour des gens comme Spotify qui sont outre en concurrence directe maintenant avec Apple depuis que Apple Music existe, mais qui fait qu'en gros, quand vous abonnez à Spotify depuis votre iPhone, vous payez plus cher parce que l'abonnement à Spotify est à 9,99€ en théorie, mais via Apple, il est à 12,99€ puisque Apple prend sa part du gâteau.
Voilà. Spotify ne veut pas rogner sur ses marges, hein, parce que après il faut payer les ayants droit, etc.
Exactement.
Et on sait que le modèle économique de ces services de musique en streaming est assez touchy quand même.
Exactement. Donc voilà, ça pose un vrai problème puisque à la fois Apple refuse l'application d'un concurrent. On peut dire que c'est un petit peu compliqué, sachant qu'aujourd'hui Apple essaye de concurrencer Spotify avec un service qui est directement en natif sur sa plateforme iOS. Donc on ne sait pas où ça va mener toute cette histoire, mais en tout cas il y a vraiment
une ambiance
un peu, et sans doute que les autorités vont commencer à s'intéresser de près aux pratiques aussi qui sont possiblement anticoncurrentielles d'Apple.
De toute façon, ça va forcément arriver. Hein. Au bout d'un moment, ça va clasher.
Exactement.
Ça, c'est clair. On va poursuivre maintenant avec un service français qui s'apprête à arriver.
Oui.
Un service de cloud gaming. Imaginez pouvoir jouer à des jeux sur PC depuis votre télé directement sans avoir de PC.
Eh oui, c'est ça. Exactement.
Alors, il faut une connexion Internet quand même.
Alors, il faut une connexion en fibre optique. vous ne pourrez pas l'avoir si vous n'avez pas la fibre. Donc voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de.
Il y en a de plus en plus.
Alors, à la fibre. Hein,
exactement.
En France.
Il faut avoir une bonne connexion, une connexion en fibre. Mais c'est une entreprise française qui va se lancer un service qui s'appelle Shadow. C'est assez intéressant. Alors on connaît déjà le cloud gaming. Il y a déjà eu des tentatives. Il y a Nvidia notamment qui fait ça aussi. Mais ce qui est intéressant là, c'est que cette entreprise donc vous vend un petit boîtier que vous allez connecter à votre télévision, à votre moniteur. Mais un petit boîtier. Alors ça coûtera à peu près 200 €, qui sera aussi qui vous se fera aussi office pourquoi
de
pas
lecteur de multimédia, etc. Et donc on le branche sur la connexion internet en fibre.
Exactement. Et de l'autre côté à votre écran. Et là vous avez en fait un PC gaming ultra puissant qui est déporté, qui n'est pas donc chez vous, mais qui se trouve dans un data center avec une carte graphique de dernière génération, en l'occurrence une Nvidia 1080 qui vient de sortir, et donc qui vous permet de jouer en fait à tous les jeux que vous souhaitez de façon déportée. Vous avez l'image de Windows, parce que vous avez un vrai Windows 10 aussi qui est intégré.
C'est mon PC, mais à distance.
C'est votre PC.
C'est-à-dire que je vais
distance.
Pouvoir le paramétrer comme je veux, télécharger ce que je veux.
Exactement. Vous pouvez télécharger Steam, récupérer les jeux que vous avez où vous voulez, et vous avez un PC et vous lancez simplement les jeux que vous désirez à distance. Donc c'est assez nouveau par rapport à ce que propose Nvidia par exemple, puisque Nvidia a un catalogue qu'il gère avec les éditeurs, et ce sont les éditeurs qui proposent les jeux en streaming.
Là,
vous
là,
faites ce que vous voulez.
Voilà.
Vous pouvez installer tous les jeux que vous désirez.
On peut même surfer sur Internet, j'imagine. Ou vous pouvez utiliser un PC comme on veut.
On peut utiliser un Windows comme si on l'avait là, sauf qu'il est à distance. Donc c'est une offre assez intéressante. On va voir ce que ça peut donner. Le seul petit problème, ça va peut-être être le prix, parce que outre les 200 € qu'il va falloir payer pour le boîtier, il y aura évidemment un abonnement qu'il faudra payer tous les mois, et qui sera à peu près de 30 €, on va dire, et pour avoir accès au service. Si on compare à un PC de gamer, PC de gamer, on va dire que pour acheter vraiment un PC à configuration équivalente, il faut payer à peu près 1 500 € pour une tour. Voilà, on peut voir la différence. On peut effectivement jouer assez rapidement pour pas cher à des jeux.
Il faut 3 ans à peu près pour l'amortir.
Voilà,
c'est ça.
Ce seul problème, c'est qu'on peut pas quand même avoir des résolutions qu'on peut atteindre avec un PC à la maison.
Oui, parce qu'on est dépendant de la qualité vidéo du streaming.
Exactement.
Quoi.
Vous pourrez avoir du 1080p sans problème, tous les détails, etc. Mais difficilement au-dessus.
Intéressant
en tout cas intéressant.
C'est en test.
Il y a une bêta qui va arriver cet été.
D'accord.
Et puis ça va être lancé beaucoup plus en avant à la fin de l'année.
C'était Émeric Siméon de la rédaction de Zeronet.com qui a détecté ce nouveau boîtier.
Ouais.
Merci beaucoup Éric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet.com. Vous restez avec nous. Suite et fin de l'atelier dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antoine Cyr comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine Cyr dans un instant pour terminer cet atelier. Mais auparavant, notre décryptage avec Guillaume de Groise de l'atelier. Salut Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors, on va parler de quoi Guillaume aujourd'hui ?
On va parler de Copenhague, mon cher François.
Et oui, alors bien sûr, on y parle énormément de Smart City en ce moment, visiblement.
Exactement, on a fait une très grande série d'articles sur le site de l'atelier à ce sujet. Et effectivement, Copenhague fait figure aux côtés de Lyon ou de Barcelone, de villes pionnières de la Smart City. Et donc, je vous propose aujourd'hui de nous plonger au cœur du pays de Borgen et des héritiers. Alors, comme vous le savez, mon cher François, nos amis américains adorent faire des listes. Et le magazine Forbes publie régulièrement sa liste des « Best Countries for Business ». Et je vous le donne en mille, qui est numéro 1 en 2015.
Bah, c'est le Danemark, j'en suis sûr.
Exactement, c'est le Danemark, mon cher François. Et c'est ce Danemark dont tout le monde parle en ce moment et qui a même été cité en exemple pendant la campagne américaine par Bernie Sanders et Hillary Clinton, excusez du peu. Le Danemark, pays du design et de la technologie, de Bang & Olufsen, mais aussi de Vestas, un des plus gros fabricants d'éoliennes du monde.
Oui.
Alors, si on se penche un peu plus sur ce qui fait que le Danemark est un pays favorable au business, on découvre un certain nombre de signes culturels. Tout d'abord, le système éducatif danois est plutôt performant. D'ailleurs, dans la dernière étude PISA, le Danemark est devant la France. Il est gratuit et surtout, il encourage et il valorise très tôt le travail en équipe et l'esprit d'initiative. Et finalement, ces valeurs se retrouvent ensuite dans le monde professionnel où l'échec est plutôt bien accepté. La qualité du système éducatif se retrouve aussi dans les universités, comme la Technical University du Danemark, qui forme 10 000 étudiants, qui viendront ensuite majoritairement travailler dans des entreprises danoises, ce qui permet finalement aux startups qui se lancent de compter sur des professionnels qualifiés et compétents sur place. Rappelons tout de même au passage que les langages de programmation C++, PHP et plus récemment Ruby on Rails sont tous issus du travail d'ingénieurs danois. Alors, les pouvoirs publics, bien entendu, ne sont pas en reste vis-à-vis de cet esprit d'entreprendre, avec une administration efficace, disponible pour les entrepreneurs. Et mon cher François, vous pouvez créer votre entreprise avec un minimum de paperasse en moins de 5 minutes au Danemark et avec un capital nécessaire d'une couronne danoise, ce qui est en fait l'équivalent de 10 centimes d'euros.
Oui, ça change un peu de la France, quoi.
Oui, un peu. Et comme souvent dans les pays de petite taille, le Danemark, faut le rappeler, c'est quand même un tout petit peu moins de 6 millions d'habitants, et bien finalement, l'export, le développement à l'international sont des passages obligés et complètement intégrés dans la culture du business au Danemark.
Mais Guillaume, concrètement, qui sont les stars de la tech au Danemark ?
Ah, ça, c'est une bonne question, François, et je sens poindre votre malice qui voudrait me faire trébucher sur des noms de start-up absolument imprononçables. Eh bien, c'est peine perdue. Les fondateurs de start-up danoises leur donnent des noms destinés au marché mondial, comme la licorne Just Eat, qui est désormais basée à Londres, et Trustpilot, qui a levé 80 millions de dollars l'an dernier. À côté de ces deux énormes succès, vous pouvez aussi citer TradeShift, SiteImprove, Falcon Social et une de mes applis favorites, Vivino. Donc, des start-up danoises qui font parler d'elles, il y en a. Le nombre de créations de start-up a été multiplié par 3 depuis l'an dernier, et comme souvent, le succès appelle le succès. Les VC sont enfin au rendez-vous. L'an dernier, 65 startups ont reçu 280 millions de dollars d'investissement de VC mondiaux, mais aussi locaux comme Sunstone ou encore Northcap et Seed Capital. Et bien entendu, tout ce petit monde se retrouve désormais dans des locaux de coworking qui n'ont rien à envier à Berlin ou à la ville voisine de Stockholm, comme le Rocket Lab ou encore Founders House et Startup Village dans le quartier d'Islandsbrygge.
Bon, écoutez, Guillaume, vous savez quoi ? On va quand là-bas fonder notre startup, vous et moi ?
Eh bien, on y va, bien entendu, mon cher François, et on y va quand vous voulez, car tous ces éléments qui font de Copenhague une startup scene excitante, la volonté de la mairie d'en faire la première green smart city avec des initiatives autour de la data et de l'écologie, on a déjà vachement envie de partir. Et si je vous dis qu'en plus d'être pro-business, le Danemark est un pays qui se classe dans le top 3 des pays où ils feront bon vivre, il ne me reste plus qu'à vous dire favel.
Bravo. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Et on enchaîne merci tout de suite avec le crash test d'Antoine Cyr comme chaque samedi.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Antoine, un crash test dédié donc à Emma Moreno.
Alors Emma Moreno, à ne pas confondre avec Roland Moreno,
bien sûr,
est une femme qui a gagné sa place sur les réseaux sociaux.
Roland Moreno, qui est quand même l'inventeur de la carte à puce.
Roland Moreno, c'était l'inventeur de la carte à puce et l'auteur de la célèbre théorie du bordel ambiant.
Exactement. Il nous a quittés il y a quelques années.
Exactement.
D'ailleurs.
Et donc Emma Moreno n'a rien à voir avec Roland Moreno, mais elle a quand même gagné sa place à l'âge du digital, alors qu'elle n'a non plus rien à voir avec le digital, et pour cause. Tout commence...
Tout ce suspense là, Antoine.
Tout commence par un tweet paru il y a une dizaine de jours, et qui était un tweet en italien.
Un tweet ?
Oui, un tweet, pardon. Un tweet en italien, qui disait « Susanna Muscia Jones si è spenta a 116 anni in una casa di riposo di Brooklyn ».
Mais ça fait 140 caractères.
Oui, ça veut dire que donc cette dame, Susanna Muscia Jones, s'est éteinte à 116 ans dans une maison de repos de Brooklyn. Alors, pourquoi tant d'Italiens s'intéressent-ils au décès de cette malheureuse personne,
oui.
Enfin finalement assez heureuse quand même, puisqu'elle est décédée à 116 ans dans une maison de repos de
116
de
c'est pas mal quand même
116
hein.
J'ai bien dit 116 pas 107, c'est 116. Eh bien, un autre tweet nous donne la réponse juste après. Il testimone passa ora ad Emma Moreno donna piemontese nata anche lei nel 1899. Donc, le témoin passe maintenant à Emma Moreno, femme du Piémont, née aussi dans l'année 1899.
Incroyable. C'est donc la nouvelle personne la plus vieille au monde.
Et la seule personne répertoriée officiellement dans des actes de naissance connus qui soit née au 19e siècle.
Oui, donc là, c'est du concret, c'est-à-dire qu'il y a des preuves, etc.
Voilà. Il reste, c'est probablement pas la seule témoin vivant du 19e siècle. Je veux dire, même dans le monde, par exemple, dans le monde animal, je crois qu'il y a des tortues ou des éléphants. Non, mais qui vivent 200 ans.
Oui, mais on n'a pas forcément une carte d'identité, quoi. C'est ça le problème. Même si on leur pose la question, ils pourraient nous mentir. Hein.
Non, mais je crois qu'il y a des tortues qui ont
connu... La tortue, parfois, elle peut être un peu rigolote. Hein.
Il y a des tortues qui ont connu Napoléon, je crois.
C'est vrai.
Enfin, c'est une façon de parler.
Oui, d'accord. Bon,
mais des êtres humains, il y en a moins.
Il y en a moins, on est d'accord.
C'est Alphonse Allais qui disait, plus le temps va passer, moins il y aura de gens qui ont connu l'empereur.
Ça, c'est clair.
Mais allez, à son époque, il en restait encore.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon, donc, redevenons sérieux. Voilà. Donc, parlons d'abord quelques instants quand même de Susanna Mouchat-Jones.
Voilà, donc la précédente.
Qui nous a quitté il y a quelques jours.
116 ans, joli score quand même.
Née à 116 ans, donc c'est le New York Times online. Rappelons quand même que le New York Times, c'est le journal qui est tellement online que vous accédez aux articles du New York Times de 1934 online.
Hein. C'est incroyable.
C'est-à-dire, c'est un journal, vous avez la totalité.
Ah oui, tout a été numérisé.
Tout est numérisé et vous avez, alors je ne sais pas s'il y a tous les articles, mais il y a énormément d'articles. Moi qui fais pas mal de travaux sur le cinéma, je peux vous dire que toutes les critiques de films américains parus pendant le 20e siècle sont
numérisés, sont disponibles.
Ils sont disponibles, c'est quand même absolument incroyable. Formidable. Mm-hmm. Voilà. Donc ce fameux New York Times nous parle de Susanna Mouchat-Jones et nous rappelle qu'elle a quand même traversé la Grande Dépression, deux guerres mondiales et que donc elle a pris sa retraite en 1965. Donc en 1965, tous autour de la table, nous étions soit pas nés, soit vraiment petits.
Tout petit.
Et donc,
la plupart n'étaient pas nés. Nous, on était nés.
Voilà, la plupart n'étaient.
Ah quoi, non, j'étais pas né moi.
J'étais en train de me dire. Oui,
mais non, c'est vrai, j'étais pas né.
Moi, j'étais né, mais j'étais quand même pas.
Bah oui, vous étiez un grand adolescent.
Oh non, Antoine, je plaisante.
Donc,
bon, qu'est-ce que ça balance quand même dans cette émission.
Oui, ça balance pas mal.
Et alors, ce qui est assez émouvant, c'est un témoignage de la nièce, donc de cette défunte doyenne de l'humanité. Qui rappelle ce que sa tante disait souvent. Elle disait, ils sont tous partis sauf moi. Parce que forcément,
c'est vrai, voilà, ben oui,
avec quand on a une telle longévité. Donc elle disait, ils sont tous partis sauf moi. Pourquoi moi? Donc c'est assez émouvant.
Ouais. Alors, imaginez si elle avait un viager, elle.
Ah oui, non, mais là, normalement, elle enterre son.
Elle enterre tout le monde,
là, c'est terrible. Voilà. Alors, on va quand même maintenant parler de la fameuse Emma Moreno.
Voilà.
La nouvelle doyen de l'humanité. Alors, il faut savoir, puisque après tout, on est dans une émission geek et que les nouveaux modes d'alimentation ne sont pas éloignés des préoccupations de la geekitude. Donc, Emma Moreno a un régime alimentaire qui est très particulier, puisque dans son existence, elle a consommé 100 000 œufs.
100 000 œufs?
Oui. C'est-à-dire qu'à l'âge de...
Mais pourquoi? Quelqu'un les a comptés?
Elle a fait un... Ben oui, parce qu'elle les mangeait d'un rythme très régulier.
Ah oui, d'accord, depuis toujours.
Donc c'était très facile de les
calculer, oui.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle souffrait d'anémie. Donc son médecin lui a prescrit 2 œufs crus et un autre cuit tous les matins et elle a conservé cette habitude alimentaire pendant les 90 années suivantes.
Non, c'est pas vrai. Elle mange 3 œufs par jour.
Oui, tout à fait. Elle
mais pourtant c'est pas bon ça, voilà. Le 3 œufs.
Non,
3 œufs, ça.
Non, alors apparemment elle a maintenant
pour le cholestérol, je crois que c'est pas terrible.
Elle a quand même apparemment arrêté puisque si je compte bien
90 plus 20 ça fait 110.
Ça fait 110. Donc ça fait 6 ans que madame Moreno ne mange plus 3 œufs par jour.
Ouais, mais enfin alors, jusqu'à 110, c'est quand même pas mal.
Alors, il faut quand même oui. dire qu'il y a des facteurs déterminants. Hein, on dit le régime alimentaire,
facteur génétique, je pense quand même aussi qu'il joue un peu, non?
Légèrement. Pour vous dire, sa maman est morte à 91 ans et l'une de ses sœurs s'est éteinte, la pauvre, à l'âge de 107 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est un peu un sport familial, quoi, le fait de vivre longtemps.
C'est un sport familial et c'est aussi, il faut bien le dire, un sport féminin.
Oui, ça on le sait. Mesdames, vous êtes vraiment avantagées par rapport
donc,
à nous.
Donc dans le top 10 recensé par l'éminent Gerontology Research Group, donc
qui porte bien son nom.
Cela dit, je vous fais pas l'article non. sur l'activité de cet organisme. Hein. Donc il y a donc les
alors sur les 10 personnes les plus vieilles du monde,
il y a que des femmes.
Non, c'est pas vrai. Il si, si. Y a pas un petit homme caché quelque part.
C'est intéressant parce qu'il y a que des femmes dont 3 italiennes.
Ah.
4 japonaises,
oui.
Une française, une jamaïcaine, et une espagnole. Et dans ce classement, le premier homme, qui s'appelle Israël Cristal,
c'est sympa.
Est classe. Âgé de 112 ans, et il est né en Russie, et il n'est qu'en 27e position.
27e.
Donc il y a 26 femmes plus âgées que l'homme le plus âgé.
Mais ce qui est confirmé quand on voit l'espérance de vie, l'écart d'espérance de vie qu'il y a entre les hommes et les femmes. Hein. Les femmes, vivent beaucoup plus longtemps que les hommes.
Absolument.
Bon, Antoine, bravo. Espérons qu'on arrive à cet âge-là. Je ne sais pas.
Bah, hein.
Vous mangez 3 œufs par jour?
Mais j'ai commencé. Normalement, en ayant commencé à mon âge, peut-être que ça, je ne tiendrai que jusqu'à 114 ans, mais bon.
Petit joueur. Voilà, cet atelier est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque samedi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, 16h-18h. Portez-vous bien.